Rouen Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 9 avril 2015. À la une ce soir.
Les réactions continuent au Burkina Faso après le vote du nouveau code électoral.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification.
Conflit sud-soudanais, la pression s'accentue sur les belligérants pour un accord de partage du pouvoir.
À l'approche de la présidentielle togolaise du 25 avril, des organisations de la société civile publient un rapport accablant sur le pouvoir.
Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, insiste pour que soit levée dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien toutes les sanctions prises à l'encontre de son pays.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Alors que différents secteurs nationaux et internationaux réclament une enquête indépendante sur un charnier découvert à Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme à son tour que les corps inhumés à Maluku sont ceux de mort-nés, de personnes non identifiées et de personnes indigentes. Il ne s'agit donc pas, selon le porte-parole du gouvernement, des corps de personnes ayant pris part aux manifestations de janvier dernier à Kinshasa. Lambert Mende s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Kinshasa.
300 bébés mort-nés, 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total de 421 personnes. Émotion, indignation, stupéfaction, spéculation. On croirait que c'était des gens aimés de leur famille, de leur vivant, que c'était plus des indigents abandonnés. On se demande pourquoi on les a abandonnés si on les aime tant. Maintenant qu'ils sont morts, ce n'est pas une banalité que 421 personnes soient dépourvues de la chaleur d'une solidarité familiale. Nous sommes Africains, donc l'émotion est sincère. Mais nous nous connaissons et nous savons qu'il y a des émotions aussi politiquement motivées, pour être poli. Le bilan de ces événements, des 19 au 21, est connu. 27 morts officiellement. Et même les sources les plus mensongères, les plus mal intentionnées, n'ont pas dénombré 421 morts, les 19, 20 et 21 janvier. Ceux qui s'adonnent à cet amalgame tentent simplement d'alimenter inutilement la fabulation.
Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Un extrait que nous devons à Top Congo FM, notre station partenaire en République démocratique du Congo.
Un mois après l'échec des pourparlers de paix sud-soudanais, les médiateurs est-africains du conflit qui ravage le jeune pays depuis décembre 2013 veulent accentuer la pression sur les belligérants en associant l'Union africaine et l'ONU aux négociations. Jean-Roger Bian.
Un nouveau plan de règlement est aussi en préparation selon les diplomates interrogés par l'AFP. Il propose de nouveau un accord de partage de pouvoir entre les chefs des deux camps belligérants, le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Cette question est l'un des principaux points de blocage à un accord politique devant mettre fin au conflit. Le nouveau processus de négociation envisagé par l'organisation intergouvernementale Est-Africain IGAD et baptisé IGAD+, associerait notamment l'Union africaine et l'ONU, mais aussi la Chine qui a d'importants intérêts pétroliers au Soudan du Sud, de même que la Troïka, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, principal artisan de l'accord de paix signé en 2005 entre Juba et Khartoum et qui avait ouvert la voie à l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Cet élargissement doit permettre d'accroître la pression des Africains sur les partis et resserrer les rangs au sein de l'IGAD, a su un diplomate impliqué dans les négociations. L'IGAD a également changé de stratégie en rédigeant un accord cadre à soumettre aux partis plutôt que de les laisser négocier entre elles, comme c'était le cas jusqu'ici, ce qui avait donné lieu à des discussions interminables et largement stériles.
À noter dans la région que les Sud-Soudanais s'apprêtent à voter la semaine prochaine. Omar El-Béchir, président depuis 26 ans, est assuré d'être réélu face à 15 concurrents peu connus. La plupart des partis de l'opposition boycottent l'élection comme en 2010.
Lutte contre le terrorisme en Algérie. Le gouvernement annonce que 4 islamistes ont été tués ce matin lors d'une opération de l'armée à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Alger.
Et en Égypte, le groupe djihadiste Ajnad Misr, qui revendique régulièrement des attentats contre la police au Caire, confirme le décès de son chef, tué dans un échange de tirs avec les forces de sécurité.
Violence anti-immigrants à Durban, en Afrique du Sud. Les attaques des 3 derniers jours ont poussé un millier d'immigrants, africains pour la plupart, à fuir leur maison. Les habitants de ce grand port sud-africain ont en effet juré de les expulser. D'après les forces de sécurité, ces immigrés ont été hébergés dans des postes de police et des tentes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, le ministère de la Défense a été touché ce jeudi lors d'un raid aérien de la coalition arabe sur la capitale. Les rebelles chiites houthis et leurs alliés contrôlent Sanaa depuis plusieurs mois. Les combats font rage au 15e jour des frappes aériennes de la coalition, tandis que les différents protagonistes du conflit multiplient les déclarations diplomatiques. Claire Morin-Gibourg.
Les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sont intenses et l'UNICEF s'est de nouveau alarmé sur l'enrôlement et la mort d'enfants dans ces combats, l'agence onusienne appelant à une solution pacifique. Dans le même temps, c'est l'escalade verbale entre les différents acteurs du conflit. Washington a haussé le ton contre l'Iran, l'accusant de tenter de déstabiliser la péninsule arabique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé sans détour que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites houthis ayant pris la capitale Sanaa et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, a-t-il ajouté. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris à l'Arabie Saoudite dont les bombardements sont, selon lui, de véritables actes criminels. Dans le cadre du renforcement de son soutien, l'armée de l'air américaine a commencé à ravitailler en vol des avions de la coalition, selon le Pentagone. La diplomatie américaine a précisé qu'elle ne cherchait pas la confrontation avec Téhéran, mais qu'elle n'abandonnerait pas ses amitiés et ses alliances.
Dans le nord de l'Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes aujourd'hui dans un attentat suicide mené par des talibans. 5 membres du service de sécurité et 5 civils ont été tués et 66 autres ont été blessés, a annoncé le chef de la police de la province de Balkh, Abdulrazik Kaderi, cité par l'AFP. Les forces de sécurité afghanes ont mis fin à cette attaque contre un tribunal après 6 heures de combat.
La Syrie peut maintenant compter sur l'appui des Palestiniens pour une opération contre le groupe État islamique dans le camp de réfugiés de Yarmouk. Ce camp situé dans le sud de Damas a été pris par les djihadistes, plaçant des milliers de civils sous la menace de l'artillerie de l'armée syrienne. Les organisations palestiniennes, à l'exception du Hamas, ont pris l'engagement de coordonner une opération de concert avec l'armée en vue de déloger les islamistes de Yarmouk. Un délégué de l'autorité palestinienne cité par l'AFP a déclaré que toute action militaire dans le camp devra éviter des destructions massives.
L'ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l'Iran, insiste pour que soient levées, dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien, toutes les sanctions des Occidentaux et des Nations Unies contre son pays. Lionel Gaïma.
L'ayatollah, qui s'exprimait pour la première fois sur l'accord cadre de Lausanne, a déclaré aujourd'hui dans un discours télévisé que cet accord ne garantit pas que des négociations aboutiront en définitive d'ici au 30 juin, l'objectif que se sont fixés l'Iran et les puissances mondiales du P5+1. Tout est dans le détail, il se peut que l'autre partie, qui est déloyale, veuille limiter notre pays dans les détails, a dit Ali Khamenei, qui a réaffirmé que son pays ne cherchait pas à fabriquer l'arme atomique comme l'en soupçonnent l'Occident et Israël. L'ayatollah a malgré tout exprimé son soutien continu aux négociations, précisant qu'il est ouvert à un compromis qui respecte la dignité et l'honneur de l'Iran.
« Ma hiç tavafuqi ra imza nakhahim kard,
Nous ne signerons aucun accord à moins que toutes les sanctions économiques ne soient levées en même temps au tout premier jour de l'application de l'accord, a déclaré de son côté le premier ministre iranien Hassan Rouhani aujourd'hui à l'ONU.
La Grèce a versé au Fonds monétaire international 495 millions de dollars d'un paiement dû en avril, mais rien n'est certain pour la suite. Toutefois, ce remboursement, confirmé aujourd'hui par la patronne du FMI, Christine Lagarde, aura pour effet de calmer les investisseurs. Athènes a annoncé hier avoir vendu des bons du Trésor pour 1,240 milliards de dollars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant à doter le pays d'un cadre législatif de référence relativement aux politiques et stratégies de développement de l'agriculture. Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien précise que ce projet de loi reconnaît pour la première fois le statut de l'agriculteur, celui des exploitations familiales ainsi que celui des entreprises agricoles. Cette reconnaissance devrait rendre l'agriculture ivoirienne plus attractive, tant pour les Ivoiriens que pour les investisseurs étrangers, ajoute le communiqué. Genève accueille à partir du 13 avril la 6e édition du sommet sur les produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Selon Chris Thérault, économiste à la CNUSED, ce sera l'occasion d'étudier l'impact de la chute des prix du pétrole, mais également du minerai de fer sur les économies africaines.
Les impacts sont déjà assez sévères. On a vu dans les deux grands pays, en Angola et Nigeria, une contraction assez importante des budgets publics d'abord. Et ça a un impact éventuel sur leurs dépenses sociaux et les revenus qu'ils puissent mettre de côté, épargner pour des projets éventuels aussi.
Et au Sénégal, la production de pommes de terre est attendue à plus de 50 000 tonnes selon les médias locaux. Elle devancerait donc les prévisions du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS. De 5 000 tonnes produites en 2006, la production a été multipliée par 10 en 2015 et son essor se poursuit.
Et voilà pour la Minute Éco. Merci Camille Gros-Didier.
Notre page sport, c'est avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Les réactions continuent après le tirage au sort de la CAN 2017.
Oui, aujourd'hui la réaction d'Alain Giresse, le Français est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Le Mali qui se trouve dans le groupe C avec le Bénin, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud. Qui savait que ce pays allait se retrouver un jour à ce niveau-là? Eh bien, nous avons tout simplement demandé à Alain Giresse son avis sur ce groupe.
Il est équivalent aux autres groupes, au tirage, sauf le groupe où il y a l'Égypte et les Nigeria, ainsi que le Cameroun et l'Afrique du Sud, qui sont certainement les groupes les plus relevés. Bon, compte tenu des chapeaux qui ont été constitués, voilà, c'est un groupe où homogène, où les têtes de série sont quand même en présentation les plus avantagées. Comme ça, j'ai dit bien présentation parce que un tirage au sort est une chose, mais la réalité, ça reste les matchs et le terrain.
À première vue, le Soudan du Sud semble être l'équipe la plus faible, mais il y a un inconnu. C'est une équipe qu'on n'a pas très souvent vue sur le terrain.
Ben non, c'est un nouveau pays qui existe que simplement depuis 3 ans, 4 ans. Son équipe de football participe pour la première fois à des grandes compétitions. Donc c'est l'inconnu total. Aucune référence, on ne peut pas savoir ce qu'est la valeur exacte de cette équipe. À nous de bien nous préparer et de nous mettre dans les meilleures dispositions pour y faire face.
À ne pas manquer la première journée des qualifications, 12, 13 et 14 juin. Visitez voaafrique.com pour plus de détails. Bagassi, basket.
Oui, il faut dire qu'il y avait beaucoup de matchs hier soir. À noter seulement cette victoire précieuse de Boston sur Détroit, 113 à 103. Et je peux ajouter que le leader de la conférence Est, Atlanta, a battu Brooklyn et aussi Toronto qui a dominé Charlotte 92 à 74.
Il ne faut pas oublier les Wizards de Washington qui ont battu Philadelphie sur son parquet. 119 à 90. Merci Baga Sikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guerrier, en votre compagnie, place au dossier du jour. On commence par le Burkina Faso, Morgane.
Les réactions continuent après le vote du nouveau code électoral. Si elle est promulguée, la loi va empêcher les partisans du président déchu Blaise Compaoré de se présenter aux élections présidentielles et législatives d'octobre. La mesure semble bien populaire dans le pays, où elle est soutenue par la plupart des partis politiques et organisations de la société civile. Siaka Koulibaly est analyste politique à Ouagadougou. Il explique au micro de Baga Sikoura pourquoi il ne soutient pas la nouvelle loi.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification. Par ailleurs, le texte est contraire à la constitution du pays et à la charte de la transition qui imposait le principe de l'inclusion. Alors, une fois que nous avons accepté ce principe d'inclusion, la communauté internationale va être réticente à apporter ses concours financiers pour l'élection. Et si l'élection n'est pas réalisée, parce qu'actuellement, le pays a des problèmes budgétaires, donc on va repousser la transition, ce qui est totalement inadmissible.
Ceux qui l'ont adopté disent que les gens de l'ancien régime doivent payer.
Bien sûr. La meilleure façon de le faire, c'est qu'ils passent devant la justice. Parce que par le texte qui a été adopté, on n'a aucun moyen réel de savoir la responsabilité directe des gens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va étudier les crimes de sang et les crimes économiques et établir la responsabilité de ces acteurs-là sur ces éléments. Donc je crois que le texte a des avantages électoralistes pour certains groupes. Mais du point de vue de la justice pour les morts du 30 octobre et pour tous les crimes de sang économiques qui ont eu lieu depuis les 27 années, je ne pense pas que ce soit la bonne voie.
Oui. Donc, à votre avis, ce texte qui institutionnalise la discrimination ne devrait pas passer le cap du Conseil constitutionnel?
Voilà. Normalement, le président du FASO ne devrait pas promulguer cette loi. Et plus tard, le Conseil constitutionnel devrait le casser, ne pas juger les candidatures aux élections sur la base de cette loi, éventuellement. Sans compter les différents recours qui pourraient avoir lieu auprès des organes, des juridictions internationales ou régionales, comme la Cour de justice de la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme.
Et puis, il y a aussi, comme une sorte de coïncidence, toutes ces interpellations qui concernent les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir. Tout ça, ça vous gêne?
Mais on observe, on se rend compte aussi que ce sont des interpellations pour nécessité d'enquête. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inculpation pour le moment vis-à-vis de ces acteurs. Nous attendons de voir que les gardes à vue se terminent et quelles seront les décisions que prendront les juges sur le sort de ces anciens dignitaires.
Siaka Koulibaly, analyste politique, joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
À l'approche de l'élection présidentielle du 25 avril, au Togo, 6 organisations de la société civile du pays, partenaires de l'ONG CCFD Terre Solidaire, ont publié un rapport intitulé « Démocratie à double vitesse, ambivalence d'un pouvoir qui tergiverse ». Ce document dresse un bilan plutôt mitigé des 10 ans de pouvoir du président Fornia Singbe, explique Bruno Anxelm, chargé de mission Afrique au CCFD Terre Solidaire.
La vie politique togolaise est vraiment très, très polarisée dans un affrontement très ancien entre une opposition dite radicale et le parti au pouvoir, même s'ils ont changé de nom depuis. Et la société civile n'échappe pas à cette polarité. Donc ces associations ont voulu faire un bilan, si possible objectif, non pas un bilan uniquement axé sur les questions électorales, parce que le débat aujourd'hui qui traverse la société togolaise sont des débats concentrés sur la question questions électorales. Bien sûr, on en parlera. Mais ils ont souhaité faire un bilan beaucoup plus large, y compris sur les questions de la justice, la question des droits de l'homme en général, la question économique, du dialogue social, la question du dialogue politique. Donc c'est un état des lieux général qui permet finalement de conclure sur un bilan ambivalent. C'est même le titre de ce rapport.
Mais il est ambivalent de quelle façon, notamment au plan politique ?
Il y a des éléments positifs, puisque le pouvoir a pris conscience en 2007 que sa réélection n'était pas garantie, ou en tout cas pas facilement pour 2010, et donc il a mis en place une stratégie d'ouverture, de réconciliation, de modernisation de l'administration. On peut noter des améliorations très nettes sur les questions sociales, la question du dialogue social, la question de la protection sociale des zones franches, la question du SMIC. On a des améliorations sur la situation des droits de l'homme, de la liberté de la presse. Et puis, évidemment, il y a des questions liées à la déception. Les gens, quelque part, ont adhéré au discours, ils y ont cru, et puis il y a un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis, surtout, pour revenir à votre question, sur le plan politique, sur le plan politicien, il y a des blocages réels d'un régime qui, quelque part, met en place des stratégies élaborées de refus de l'alternance.
Est-ce que les organisations de la société civile proposent une alternative ?
D'abord, elles analysent la situation et font un certain nombre de recommandations. Alors, de toute façon, je crois que ça ne serait pas original pour nos organisations partenaires de se limiter à la question qui traverse la société aujourd'hui, la question du nombre de mandats, la question du découpage, la question des listes électorales. Je crois que tout le monde porte ce débat, y compris la communauté internationale, les institutions panafricaines, la France, l'Union européenne. Donc, je crois qu'elle rappelle effectivement ces enjeux-là. Elle rappelle quand même que des progrès ont été faits dans ce pays, mais elle interpelle notamment le pouvoir, mais les candidats d'une manière générale à la responsabilité, parce que probablement que les populations togolaises n'accepteront pas indéfiniment ce type de tergiversation de la part du pouvoir.
Bruno Angstelm, chargé de mission Afrique au CCFD Terres Solidaires, au micro de Camille Gros-Didier.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Ici aux États-Unis, l'actualité, c'est entre autres l'inculpation et la révocation du policier blanc Michael Slager, vu sur une vidéo en train d'abattre un noir non armé en Caroline du Sud. D'autres épisodes similaires, filmés par des témoins, n'ont pas produit le même résultat. Le dernier qui nous vient à l'esprit, c'est le cas d'Eric Garner à New York. Pourquoi ? L'avocat Philippe Brutus nous offre son analyse.
Bon, c'est clair que l'existence d'une vidéo qui a capturé seconde par seconde les actions du policier et de l'individu qui s'échappait et qui l'a tué avec sang-froid. C'est pur et simple un meurtre. Et les autorités américaines qui se sont souciées quand même de la réputation qui se développait, ce qui a trait à l'assassinat des gens de couleur par la police avec impunité, ils se sont mis d'accord immédiatement. On a des preuves tangibles. Il faut qu'on accuse cette personne, il faut qu'on arrête et qu'on le révoque de son boulot.
Mais est-ce que cette preuve tiendra au tribunal?
Bon, quand même, quand on est jugé par des individus, par des gens qui ne sont pas infaillibles, il y a toujours une possibilité que les choses peuvent détériorer.
Si vous étiez l'avocat de Slager, quelle serait votre stratégie?
Prime abord, je considérerais entrer un pourparler avec l'avocat du gouvernement, le procureur, pour voir est-ce qu'on peut faire une sorte d'entente, parce que l'évidence est réellement frappante. Mais si je devais aller en jugement, comme on dit toujours quand il n'y a rien à dire, bon, il était stressé, il était dans un quartier un peu dangereux, il a perdu son sang-froid, il n'a pas voulu la battre. Bon, peut-être il a voulu tirer en l'air, mais pendant un moment, un instant, il a perdu sa foi, il a perdu sa lucidité. Mais quand même, je pense pas que ça tiendra.
Maître Philippe Brutus, comparons un peu ce qui vient de se passer à North Charleston avec les autres incidents connus récemment ici aux États-Unis où des policiers blancs ont abattu des noirs non armés.
Bon, c'est clair que, pour Ferguson par exemple, Michael Brown, il n'y avait pas de vidéo. Il y avait des conflits entre les témoins. Et quelqu'un a dit qu'il avait les mains en l'air. D'autres ont dit qu'il avait les mains en direction de la police, comme il avait tiré. On ne sait pas. Il y avait l'autre situation dans un Park, je pense, un jeune homme de 14 ans qu'on a tué aussi, bien qu'il y ait une vidéo qui a montré que la police a tiré sur lui en moins de 3 secondes, et je ne sais pas ce qui va se passer là. Et Eric Garner, maintenant, on a vu que les policiers l'ont harassé, et finalement tué. Alors je pense que la pression forte des policiers à New York, ils ont quand même 30 000 policiers, plus un syndicat très fort, ont quand même forcé la main à la justice new-yorkaise pour rien faire contre les tueurs d'Eric Garner. Tandis qu'en Charleston, c'est une petite ville, et dans le sud, proche du marché, et puis il y a un sénateur nord-américain, il y a beaucoup de faits qui ont joué dans cette décision rapide.
L'avocat Philippe Brutus nous parlait du sud de la Floride.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Niger. Face à la menace Boko Haram et l'insécurité alimentaire, comment va ce pays dirigé depuis 4 ans par Mahamadou Issoufou ? Nous en parlerons à l'occasion d'une interview que nous a accordée le président nigérien. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Un groupe de 25 000 usagers accusant Facebook d'utiliser illégalement leurs données personnelles a déposé un recours collectif contre le réseau social au tribunal civil de Vienne. Florence Bonnet est juriste et spécialiste de la protection des données personnelles.
C'est un recours exceptionnel dans la mesure où il concerne un grand nombre de personnes. On parle de 25 000 plaignants. Et qu'à ce jour, en Europe, on n'a pas eu d'action de groupe, ou en tout cas d'action qui s'apparente à une action de groupe de cette ampleur.
Est-ce que pour vous, Facebook fait réellement de la surveillance massive ?
Je ne dirais pas que Facebook qui fait de la surveillance massive. Disons que Facebook fait ce qu'on appelle du tracking. Donc c'est un suivi permanent des utilisateurs et même des personnes qui ne sont pas utilisateurs de Facebook, puisque dès lors qu'il y a un bouton de partage du réseau Facebook ou un bouton like sur une page, on sait que Facebook vous suit. Après, le problème de la surveillance, c'est plus, je dirais, la surveillance du gouvernement américain avec scandale Prism qu'on connaît maintenant.
Est-ce que Facebook est partie prenante ou est-ce que Prism utilise les données de Facebook ?
Notre point de vue est que les GAFA, et même plus que les GAFA d'ailleurs, les grands fournisseurs de services Internet américains, ont été très complaisants avec le gouvernement américain, pour X raisons, et donc ont laissé le gouvernement américain avoir accès aux données des citoyens européens. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier et qui sont avérés.
Pour vous, un tel recours va-t-il permettre que les internautes soient mieux protégés ?
Déjà, il faudrait que cette action soit jugée recevable par la Cour autrichienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faudra regarder ce qui va être jugé. Si la Cour se prononce, d'une part, sur la politique de confidentialité de Facebook, puisqu'il lui est reproché de ne pas être suffisamment clair et compréhensible des utilisateurs. Ensuite, si la Cour se prononce également sur le fait que la transmission de données au gouvernement américain via Prism est parfaitement illégale et contraire à la réglementation européenne de protection des données et aux droits fondamentaux des citoyens européens. Et puis, si la Cour se prononce également sur tout ce qui est suivi des utilisateurs à leur insu. Donc forcément, l'utilisateur de Facebook, et même, je dirais, chaque citoyen européen, puisqu'on consulte tous des pages où il y a des boutons de partage Facebook, sera bénéficiaire.
Et la juriste Florence Bonnet, spécialiste de la protection des données personnelles, au micro de Claire Morin-Gibourg. Un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Les réactions continuent au Burkina Faso après le vote du nouveau code électoral.
Oui, il y a des gens qui sont pour et il y en a qui sont contre. Toujours dans l'actualité aujourd'hui, le conflit sud-soudanais, la pression s'accentue sur les belligérants pour un accord de partage du pouvoir.
À l'approche de la présidentielle togolaise du 25 avril, des organisations de la société civile publient un rapport accablant sur le pouvoir.
Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, insiste pour que soient levées, dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien, les sanctions adoptées par les pays occidentaux et l'ONU à l'encontre de son pays. Voilà pour ces quelques grands points de l'actualité. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma.
Assisté de notre ami Marc Coulier. Merci Brian.
Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.